Bien, mesdames et messieurs, et chers collègues, bienvenue à toutes et tous. Je suis heureux de vous accueillir ce matin dans notre hémicycle au nom du bureau du Parlement francophone bruxellois pour évoquer un sujet qui me tient à cœur, un sujet qui nous concerne tous, la démocratie participative. Évidemment, quel meilleur endroit que l'hémicycle du Parlement pour l'aborder. Alors, vous avez été nombreux à répondre à notre invitation, et je vous en remercie. Et je voudrais saluer particulièrement la présence parmi nous de jeunes élus français et bulgares qui nous font le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui, qui ont répondu à mon invitation dans le cadre d'un programme qu'on connaît sous le nom d'ASPEN, le programme ASPEN, qui est un programme de renforcement de capacités de jeunes dans la société civile et politique. Et donc, merci à eux d'être présents, de venir assister à cette rencontre aujourd'hui. Alors, je voudrais également, d'entrée de jeu, remercier les intervenants de ce matin et de cet après-midi, tous de grande qualité. Merci sincèrement d'avoir accepté de figurer dans notre programme. Et alors, je vais excuser aussi M. David Van Riebroek, qui malheureusement a eu un accident hier de vélo. Rien de très grave pour sa santé, mais malheureusement, il est immobilisé. Et donc, il s'excuse. Et je sais que beaucoup attendaient d'avoir une première confrontation directe avec ses idées parfois iconoclastes qu'il a publiées dans son livre « Contre les élections ». Donc déjà tout un programme dans le titre. Mais je suis sûr qu'on aura l'occasion de recréer le débat avec lui. Alors merci aussi évidemment aux organisateurs du colloque, ceux qui sont occupés du contenu, du fil rouge, des intervenants. Ils sont à ma droite et à ma gauche, M. Jean-Benoît Pilet, directeur du CEVIPOL, M. Mine Rochand, chercheur à l'UCL. Merci aussi à l'Université Saint-Louis, qui sont avec l'UCL et l'ULB nos partenaires de cette matinée. Et enfin, un dernier mot de remerciement au service des relations publiques du greffe du Parlement et de toute l'équipe du greffe pour la toute bonne organisation de la matinée et de la journée même. Alors, mesdames et messieurs, le Parlement francophone bruxellois fête cette année ses 25 ans d'existence. En 1989, la région bruxelloise est créée par loi spéciale et avec elle, ses institutions communautaires dont notre Parlement. S'en suivent 25 années d'une histoire riche, dense, tumultueuse parfois, années durant lesquelles les Bruxellois prennent progressivement leur destin en main, jusqu'à la toute récente 6e réforme de l'État, qui permet à Bruxelles de rencontrer sa revendication historique, être une région à part entière. Et donc en 25 ans, que de chemin parcouru. Alors aujourd'hui, Bruxelles s'affirme. Les Bruxellois peuvent être fiers de leur identité multiple, hybride. Le refinancement de la région, le transfert des compétences venant du fédéral, mais aussi l'autonomie constitutive, la réorganisation qui est en cours de certaines compétences entre institutions bruxelloises, autant d'acquis de cette réforme, autant d'acquis aussi qu'il faudra mettre en œuvre les prochaines années. À ces questions en plus institutionnelles, il y a bien sûr les enjeux socio-économiques, environnementaux, urbains, qui sont plus importants que jamais. Il y a donc du travail pour les prochaines législatures même. Alors pour nous, Bruxellois francophones, il s'agit aussi d'assumer notre leadership urbain, sans complexe, dans une ouverture sincère, une main tendue vers les néerlandophones bruxellois. Nous devrons aussi investir dans notre enseignement, dans notre culture, avec les Wallons, en lien avec les Wallons bien sûr, et nos efforts devront être particulièrement consacrés à nos concitoyens les plus fragiles, qu'ils soient atteints par le handicap, par l'âge, par la maladie. Et enfin, dans un fédéralisme mature, la coopération avec les autres niveaux de pouvoir doit devenir la matrice de notre manière de fonctionner. Voilà donc pour le programme des prochaines années, prochaines législatures, un programme vaste. Mais pour réussir des chantiers de cette ampleur, il faudra immanquablement une adhésion populaire forte. Les prochaines majorités devront donc veiller à faire converger toutes les énergies et créer un consensus large au sein de la population, parmi la société civile, les acteurs économiques de notre région, L'adhésion populaire sera une condition nécessaire pour la réussite de cette transformation structurelle à venir. Or, aujourd'hui, force est de constater que nos concitoyens ne semblent pas dans un rapport de grande confiance à l'égard de leurs élus. Et l'adhésion est plutôt une chimère qu'une réalité. La dernière enquête décennale sur les valeurs des Belges, qui date de 2009, on est à mi-chemin de la prochaine, intitulée « Autre temps, autre mœurs », indiquait que les partis politiques sont l'institution à laquelle les Belges font le moins confiance. L'étude nous apprend également que 70% des personnes interrogées se disent désintéressées de la politique. Et c'est un record historique depuis que cette enquête décennale est réalisée. D'autres signaux convergent vers la même conclusion. La virulence des propos sur Internet, sur les réseaux sociaux, dès qu'il s'agit de politique, la suspicion permanente à l'égard des élus, entretenue, il est vrai, par des comportements de certains et qui rejaillissent malheureusement sur l'ensemble de la classe politique, le taux d'abstention aussi lors des élections, malgré le vote obligatoire qui continue d'augmenter, le zapping électoral, les audiences plutôt basses, plutôt faibles des émissions politiques, bref, tout concorde pour acter le décrochage entre les institutions et les citoyens. À y regarder de plus près, les raisons sont nombreuses qui peuvent justifier ce désamour. Il y a le pouvoir des élus, qui progressivement a glissé d'abord vers les exécutifs, puis vers les technocrates, le tout sous pression des lobbies, avec donc un contrôle citoyen de loin en loin. Il y a aussi la complexité de nos institutions et de nos enjeux, qui sont d'autant plus difficiles à expliquer que le temps médiatique pour le faire se rétrécit. Il y a aussi la temporalité de la prise de décision qui ne satisfait plus l'opinion publique. D'un temps long, nous sommes passés à un immédiat permanent qui ne convient pas au processus législatif, ce qui crée une double frustration, une frustration dans le chef de ceux qui légifèrent et qui n'ont pas le temps de le faire ou de l'expliquer, et puis une frustration dans l'opinion publique qui attend des résultats et vite. La généralisation aussi de l'usage des réseaux sociaux bouleverse les codes du débat lui-même, du débat public, et place élus et citoyens en face à face, sans intermédiaire, souvent en temps réel, et les uns et les autres se trouvent alors démunis pour mener ce dialogue d'un nouveau type. Le résultat de tout cela est que notre démocratie étouffe, nos parlements s'affaiblissent, et nos concitoyens s'éloignent des institutions qui sont censées les représenter. Pourtant, l'intérêt pour la chose publique, lui, ne semble pas faiblir, que du contraire. Le besoin de politique semble même n'avoir jamais été aussi fort. Il existe une vraie demande de participation de la part de citoyens qui se sentent dépossédés de leur souveraineté et qui ne se reconnaissent plus dans leurs représentants. Aussi, la participation prend-elle des formes nouvelles en dehors des institutions traditionnelles que sont les partis politiques, les syndicats ou les autres corps intermédiaires? Or, ma conviction est que nous ne pouvons pas réussir les grandes transformations pour adapter nos sociétés à notre nouveau siècle, à notre nouvel environnement, sans une adhésion populaire forte. Je l'ai dit déjà en introduction. Notre démocratie n'a donc pas d'autre choix que de s'adapter à son nouvel environnement et de tenir compte de ces changements de comportement, notamment de nos concitoyens. Alors, les recettes classiques visant à rapprocher les citoyens de leurs élus, telles que les cours de citoyenneté, le contact direct, la proximité, donc le contact direct des élus sur le terrain, les initiatives pédagogiques, le meilleur encadrement aussi du statut et du comportement de l'élu, tout cela ne suffira plus. Je pense qu'il faudra aller plus loin et toucher à la manière même de faire fonctionner nos institutions. Redonner sa force à la démocratie passera donc par un plus grand rôle des citoyens dans la prise de décision. La démocratie participative me semble être une réponse intéressante, encore peu examinée ou peu explorée dans la pratique de notre démocratie, évidemment plutôt représentative. C'est là pourtant que réside une partie de la solution. D'où donc l'idée que j'ai eue de soumettre à mon bureau du Parlement de traiter de cette question à l'occasion d'une journée. Et je remercie encore une fois les membres du bureau du Parlement d'avoir unanimement accepté de suivre cette proposition pour engager le débat à l'occasion de nos 25 ans. Alors l'objet de cette matinée est donc précisément celui-là, examiner l'état des lieux des réflexions et des expériences de démocratie participative afin d'en tirer des pistes pour notre avenir, ici à Bruxelles ou ailleurs. Alors modestement, à notre niveau, au Parlement francophone bruxellois, ma collègue Julie De Groot, que je salue, qui est présente parmi nous ce matin, et qui m'a précédé à cette fonction, a lancé un concept intitulé « Les jeudis de l'hémicycle ». Alors il s'agit, un jeudi par mois, d'inviter un secteur d'activité en lien avec les matières de la COCOF, de les inviter ici, dans l'hémicycle, pour qu'ils présentent leurs priorités, leurs enjeux, leurs programmes, leurs revendications aux parlementaires présents, à charge pour eux eh bien, de donner une suite à cet échange, que ce soit à travers des questions au gouvernement, des interpellations, ou des recommandations, ou toute autre forme de suivi qu'ils jugeraient utile. Alors le bilan de cette expérience modeste, c'est vrai, est extrêmement positif. Certes, ce ne sont pas encore les citoyens en tant que tels qui viennent s'exprimer ou défendre des positions dans l'hémicycle. Ce sont des associations, des fédérations, mais c'est déjà une forme de participation citoyenne. L'ambition est donc d'aller plus loin, d'ouvrir davantage encore le Parlement, à la fois en donnant la possibilité au secteur en question de soumettre, pourquoi pas, des textes à discuter directement avec les parlementaires, ou bien en offrant la possibilité à des citoyens, dans le cadre de panels qui peuvent être tirés au sort, comme certaines expériences qui se sont faites ailleurs dans le monde ont déjà eu l'occasion de le faire, donc des panels citoyens qui viendraient, qui seraient créés à l'initiative du Parlement ou du gouvernement, selon les besoins, et qui viendraient remettre des recommandations au Parlement, à charge pour lui alors de prendre attitude. C'est une proposition parmi beaucoup d'autres, je suis convaincu que nous en entendrons un certain nombre ce matin, mais en conclusion, je vous livre mon espoir à quelques semaines ou quelques mois des élections générales en Belgique, c'est qu'on puisse, avec cette journée, contribuer à une prise de conscience dans l'opinion publique, mais aussi dans le chef des institutionnels, et notamment des partis politiques, une prise de conscience sur le renouveau ou la possibilité d'un renouveau démocratique à travers une démocratie participative qui elle-même passe par une plus grande place occupée, octroyée aux citoyens. Et donc j'espère que cette journée inspirera les différents, les uns et les autres, et les différents partis politiques pour qu'ils puissent réserver des volets importants de leurs programmes électoraux à la question de la gouvernance et pourquoi pas à la question de la démocratie participative. C'est donc le souhait que je formule pour cette journée. Je vous souhaite beaucoup de bonheur dans les discussions et les échanges. J'ai eu l'occasion de discuter avec les uns et les autres à l'une ou l'autre occasion et j'ai constaté que souvent la démocratie participative est un sujet passionnant, mais passionné, où les gens s'engagent, s'impliquent, ce qui est plutôt une bonne nouvelle vu la nature même du sujet. Et donc je vous souhaite beaucoup de réussite et de plaisir dans les échanges et dans nos travaux. Merci beaucoup. Et je passe la parole à M. Jean-Benoît Pilet.
Bien, merci beaucoup Monsieur le Président. Bonjour à tous. Donc, je vais être relativement bref, je vais me contenter de revenir brièvement sur le thème et l'organisation de la journée, puisque vous avez déjà pu largement prendre connaissance de ce thème. Donc l'idée qui a guidé l'organisation de cette journée et la définition de son programme, c'était de réfléchir autour de cette question de la démocratie participative, à l'invitation donc, de M. le Président et du bureau du Parlement francophone bruxellois. Réfléchir autour de cette idée qui reste un concept relativement large, qui couvre, nous allons le voir dans quelques instants avec l'exposé de Loïc Blondiaux, une grande variété d'outils concrets de ce que peut être effectivement la démocratie participative dans son mode d'organisation, dans le niveau auquel elle se passe, que ça aille du plus local vers des niveaux qui peuvent aller jusqu'au national, voire au-delà. Et on le verra notamment avec l'intervention de David Farrell sur la Convention constitutionnelle irlandaise, où ça peut se passer aussi pour des réformes à des niveaux plus importants, donc ce n'est pas restreint au niveau local. Donc on a voulu partir de ce constat d'un dynamisme et d'une grande variété de la démocratie participative et d'essayer de réfléchir, après plusieurs années maintenant de pratiques participatives, de réfléchir autour de l'articulation de cette démocratie participative avec les instances représentatives qui existent déjà. Et on l'a entendu dans l'intervention du président du Parlement, on l'a entendu qu'on assiste à une transformation de la façon dont cette articulation est pensée. Il faut quand même le souligner, pendant très longtemps, on était plutôt dans un rapport de méfiance mutuelle. Des deux côtés, on était relativement méfiant par rapport du côté des participants aux instruments participatifs, méfiant par rapport aux institutions représentatives traditionnelles. De l'autre côté, on se demandait aussi pourquoi et comment on pouvait exactement, et quelle légitimité pouvaient avoir ces participants qui n'étaient pas issus des élections. Et donc on avait essentiellement ce sentiment-là. Et on voit depuis quelques années qu'on est on a une évolution et qu'on a un intérêt mutuel et une réflexion autour de la complémentarité plutôt que d'une opposition entre ces modes d'organisation de la décision politique. Alors ça ne veut pas dire que tout est rose, et on le verra dans la journée. On n'a d'ailleurs pas voulu faire un bilan BA de la démocratie participative. Au contraire, on veut aussi réfléchir aux impasses qu'elle peut poser, aux difficultés qu'elle peut poser, et à sa possible, les possibles problèmes insolubles qui peuvent faire face à ces outils participatifs. Donc on ne veut pas être dans un optimisme BA, mais on voulait en tout cas profiter de ce... je dirais, de cet intérêt mutuel et de cette diminution de la méfiance entre les deux modes d'organisation principaux de la décision politique pour réfléchir autour de la démocratie participative. Alors, pourquoi maintenant? C'est l'autre question. En effet, le thème n'est pas véritablement nouveau. On va le voir, les expériences de démocratie participative, elles existent depuis longtemps. Donc, ce n'est pas une réflexion nouvelle, ce n'est pas quelque chose de totalement innovant. On ne peut pas dire qu'on en soit à la petite enfance de la démocratie participative. On en est bien au-delà. On est certainement au moins à son adolescence aujourd'hui. Mais malgré tout, ça reste pour nous un thème d'actualité. Et ça, principalement pour trois raisons. Premièrement, parce que justement, grâce à l'acquis des expériences existantes, on peut maintenant être dans la phase du bilan. On peut véritablement, sur la base d'un nombre suffisant d'expériences participatives, poser les premiers bilans, poser les premières questions sur les bonnes formules, les moins bonnes formules, sur les difficultés, sur les impasses, sur les opportunités que présente cette démocratie participative. Donc déjà, on est à un moment opportun à ce niveau-là. D'autre part, on l'a vu ces dernières années... la question du nécessaire renouveau des institutions représentatives et de l'éventuelle complémentarité des pratiques participatives s'est posée avec plus d'acuité. Monsieur le Président l'a souligné, la question de la méfiance croissante des citoyens envers leurs institutions représentatives, envers les partis politiques, le désintérêt croissant par rapport à la politique, qui est quelque chose de pas neuf, mais c'est quelque chose qui a pris... une nouvelle acuité suite aux crises, d'abord à la crise économique et financière qui a induit dans plusieurs pays, surtout ceux qui sont le plus touchés par ces crises, une méfiance encore plus importante par rapport aux institutions représentatives et aussi par rapport aux autres institutions non représentatives qui interviennent dans ces processus, qui sont souvent des institutions internationales ou intergouvernementales. Et ça a suscité un regain d'intérêt. Et je pense qu'à ce niveau-là, l'expérience irlandaise qui va nous être exposée tout à l'heure fait tout à fait actualité, puisqu'on est vraiment dans cette logique-là, de se dire... manifestement, notre système politique a connu des ratés et nous a mis face au mur, face à cette énorme crise qui sera difficile à résoudre et qui mettra des années, voire des générations pour être résolue. Comment est-ce qu'on peut repenser nos institutions et comment est-ce qu'on peut les repenser autour d'une convention constitutionnelle qui va impliquer pas seulement des élus, mais aussi des citoyens? Donc ça, on a une véritable actualité. Et puis, en Belgique, ça a été doublé du débat autour de la longue formation du gouvernement fédéral en 2010, avec des initiatives comme le G1000, qui justement ne traite pas que des questions institutionnelles, bien au contraire, mais qui sont nées à ce moment-là par rapport à, aux inquiétudes qui étaient, pas besoin de vous le rappeler, qui étaient fortes chez tout le monde, chez les élus, mais aussi chez les citoyens. Et donc, on a aussi cette actualité par rapport à cet élément-là. Enfin, La dernière raison qui amène, à justifier cette journée, c'est la volonté de réfléchir pas simplement à la démocratie participative, mais aussi de réfléchir au renouveau du rôle des parlements dans nos systèmes politiques contemporains. On l'a entendu et on en a déjà largement échangé avec Monsieur le Président autour de ça, cette question de la fonction parlementaire, quel sens donner à la fonction parlementaire dans une situation où, d'une part, les gouvernements exercent énormément d'une des fonctions parlementaires principales, qui est la fonction législative, avec un grand nombre, une grande majorité des lois, décrets, ordonnances qui viennent d'initiatives gouvernementales et pas d'initiatives parlementaires, avec les difficultés que peuvent poser le contrôle quotidien et le contrôle structurel des exécutifs. Et donc, comment réfléchir et quelles pistes trouver pour un renouveau des parlements? Est-ce que ce renouveau doit aller vers un accroissement de la fonction de contrôle aux dépens de la fonction législative, production des lois? Est-ce que ça doit aller vers autre chose? Et est-ce qu'on doit se diriger vers un modèle qui serait plus proche, finalement, de ce qu'on voit pour repenser, par exemple, la deuxième chambre britannique, c'est-à-dire de devenir un espace de réflexion qui peut se donner le temps, de mener des débats de fond, des débats de société sur des thèmes importants qui ne peuvent pas être gérés sous la pression du quotidien? Est-ce que c'est cette voie-là? Ou est-ce que c'est la voie de l'évaluation des politiques publiques avec l'aide d'autres personnes que les parlementaires, qui peuvent être des experts, mais qui peuvent aussi être les citoyens et qui peuvent eux aussi apporter leur voix? Et donc, ce Parlement qui est en train de réfléchir, ces parlements qui sont en train de réfléchir, et on voit ça partout en Europe, sur leurs fonctions, et peut-être que devenir le lieu de dialogue et d'entrée privilégiée des recommandations venant d'outils de démocratie participative, peut-être que cette voie-là peut être une voie qui mériterait d'être explorée, ou pas du tout, on verra, les différentes voix, les différentes opinions peuvent être entendues, mais en tout cas, je pense que ça fait sens d'entendre ce discours sur comment peut-on utiliser ces outils participatifs pour aussi redéfinir la fonction et le sens qu'ont nos parlements aujourd'hui, et je pense que c'est tout à fait opportun comme réflexion. Alors, au-delà de du thème, l'esprit de cette journée se veut un esprit d'échange et de dialogue entre des personnes qui ont des profils et qui ont, je dirais, des expertises différentes. J'ai repris lors d'une discussion que j'avais eue en organisant cette conférence, en disant, finalement, c'est vous les experts. Mais non, ce n'est pas nous les experts. Nous sommes, nous, académiques, qui menons des recherches sur différentes choses, dont la démocratie participative. Nous sommes un type d'experts. Mais ce que nous voulons, c'est que cette journée soit un dialogue entre différents types d'experts, différents types d'expertise, l'expertise qui vient des académiques, mais qui vient aussi des élus qui sont des experts de l'action politique, qui ont ce regard qui leur est propre sur l'action politique, mais aussi sur l'action de terrain, d'autres experts que sont les praticiens de la démocratie participative, et puis encore d'autres experts que sont les utilisateurs, les participants à cette démocratie participative. Et donc ce qu'on veut, c'est que ces différentes expertises, ces différents regards puissent dialoguer, puissent échanger sans qu'on soit dans une posture de quelqu'un qui donne des leçons ou qui dit ce qu'il faut faire à l'autre, mais qu'on soit véritablement dans un esprit de dialogue et d'échange. Et je pense que ça, ce sera très important tout au long de la journée. Et dans le format de cette journée, on a laissé beaucoup de temps pour le débat en séance plénière, on a laissé aussi beaucoup de temps pour le travail en atelier, pour qu'on puisse travailler autour de ces échanges. Donc vraiment, cet esprit de dialogue est important dans l'esprit de cette journée. Donc j'insiste là-dessus, j'espère que l'échange sera le plus dynamique et le plus interactif possible. Alors, avant de passer la parole à Mine Rechant et à Loïc Blondieu et à David Farrell qui vont animer cette séance plénière, je voudrais, même si ça a déjà été fait, remercier différentes personnes. Je voudrais remercier l'ensemble des orateurs d'être venus aujourd'hui, qu'ils soient venus de plus loin ou qu'ils soient venus de très près. On les remercie d'avoir rejoint avec enthousiasme et avec sérieux ce projet. On l'a vu dans la préparation et dans les échanges sur la préparation de cette journée, qu'il y avait un véritable investissement des différents orateurs, et je tiens à les remercier. Je suis certain que ça va se voir dans la qualité des débats. Je voudrais remercier Mine Rechant pour cette collaboration ULB-UCL. Ça s'est bien passé, comme ça se passe très souvent bien entre nos départements de sciences politiques. Donc je pense que ça doit être souligné, parce qu'on a parfois l'impression, en regardant les médias, que ce ne sont que des relations d'affrontement. Bien, pas du tout. Sur le terrain, ce sont aussi beaucoup de relations de bonne collaboration. Donc merci Mine pour cette nouvelle bonne collaboration. Je voudrais remercier les services du Parlement, et en particulier les services relations publiques du Greffe. C'est J'ai été impressionné par leur efficacité, leur disponibilité. Ça a été un plaisir d'organiser cette journée avec eux. Je suis sûr que tout va se dérouler sans aucun accroc. Donc merci beaucoup. Ça montre bien que nos institutions sont extrêmement efficaces et peuvent être extrêmement efficaces et qu'il ne faut donc pas simplement les présenter sous les petits problèmes ou grands problèmes qui peuvent surgir. Mais il y a aussi énormément d'excellentes choses qui se font à l'intérieur de nos institutions. Et finalement, je voudrais remercier M. Hamza Fassi-Firi pour cette invitation, pour les échanges très riches et très fructueux que nous avons eus ensemble dans la préparation de cette journée. On est ravis d'être là, mais je ne vais pas être plus long, je vais céder la parole à Mine pour cette séance plénière.
Merci beaucoup, et mesdames et messieurs, passons directement à cette séance plénière qui, comme vous l'aurez compris, se voudra être interactive. Mais avant de rentrer véritablement dans une participation de votre part, on a le grand plaisir et le grand honneur d'accueillir deux personnes qui comptent dans le monde de la participation, qui ont, au cours des années, pu voir toute une série de choses et ils vont nous faire part de leurs expériences. Et donc, je vous propose donc de procéder de la sorte, c'est d'abord d'entendre Luc Blondiot, qui sera alors suivi par l'intervention directement après de David Farrell, qui la fera en anglais. On aura une traduction simultanée, donc il suffira de chercher le bon canal, mais ça se fera bien donc, de l'anglais vers le français. Et ensuite, alors, d'ouvrir la discussion, d'ouvrir la délibération tous ensemble, puisqu'on a la matinée pour discuter de ce thème-ci, avant, alors, dans l'après-midi, de passer à des ateliers en parallèle. J'invite directement le professeur Loïc Blondiot, qui nous vient de l'Université de Paris 1.
Bouton rouge. Voilà. Est-ce que ça va mieux ? Oui. Alors, merci pour cette présentation. Donc, ça fait une dizaine d'années, même un peu plus maintenant, que je travaille sur cette question de la participation citoyenne, comme sociologue et de plus en plus aussi comme théoricien qui réfléchit aux transformations de nos démocraties. J'ai créé il y a 3 ans un master professionnel à la Sorbonne d'ingénierie de la concertation qui forme des spécialistes, des médiateurs en matière de participation citoyenne, et je m'implique assez souvent dans des expériences en tant que garant, en tant qu'évaluateur ou simplement d'observateur. Donc je suis pris par cette question, par cet objet, et je vais essayer de faire un état, de faire un point de ce que l'on sait et surtout des questions que continue de soulever la question de la participation citoyenne au processus de décision dans les démocraties contemporaines. Je vais le faire en m'appuyant sur des exemples français, mais aussi sur un certain nombre d'exemples internationaux. Alors, je vais procéder en 5 temps. Je vais d'abord partir d'un constat paradoxal, celui selon lequel nous sommes à peu près persuadés qu'il faut transformer nos démocraties, que la situation actuelle des démocraties représentatives n'est pas une situation tenable dans la durée, mais en même temps, paradoxe, parce que finalement nous ne savons pas encore comment faire. Et les oppositions à l'extension des droits politiques vers la participation citoyenne, ces oppositions sont nombreuses et fortes. Dans un deuxième temps, je vais clarifier les enjeux, mais aussi les modes, les formes de la participation citoyenne et essayer d'insister sur la diversité des modèles qui sont à notre disposition et surtout des objectifs que nous pouvons poursuivre à travers ces expériences. Dans un troisième temps, je vais m'intéresser aux maladies infantiles. On a dit que la démocratie participative n'était plus dans l'enfance, mais elle continue à rencontrer un certain nombre de difficultés récurrentes, transversales, un certain nombre de problèmes, pour l'instant encore, difficilement surmontables. Dans un quatrième temps, je vais essayer de montrer que quelquefois ça marche. Quelquefois, finalement, les expériences remplissent les objectifs qu'on leur assigne. Et je vais présenter quelques exemples. Et puis, dans un dernier temps, je vais essayer de lister les conditions qui permettent, finalement, à cette démocratie participative de fonctionner. Alors, d'abord, une configuration paradoxale, au départ, aujourd'hui, ici et maintenant. Il y a d'abord ce que j'ai appelé avec mon collègue Yves Saint-Omer, clairement, la montée depuis une quinzaine d'années dans nos démocraties occidentales de ce qu'on a appelé un impératif participatif ou un impératif délibératif. Cet impératif participatif, il s'appuie sur un contexte qui a commencé à être rappelé par monsieur le président du Parlement. Ce contexte, c'est celui d'une évolution structurelle de nos sociétés. Évolution que je vais essayer de caractériser et de rappeler. Nous avons affaire à des sociétés de plus en plus complexes, mais aussi de plus en plus divisées. Complexe parce que, finalement, les sphères qui la composent poursuivent chacune leur logique sans véritablement tenir compte des autres. C'est ce que le sociologue et philosophe allemand Niklas Luhmann exprime dans son analyse des sociétés contemporaines. Nous avons la nécessité d'une coordination de ces sphères et surtout nécessité d'éviter que l'une de ces sphères, la sphère économique en particulier, empiète et impose sa logique à toutes les autres. Nous avons des sociétés de plus en plus divisées sur leur vision du bien, du juste. Il y a aujourd'hui difficulté de trouver un accord entre des acteurs se polarisent, entre des opinions qui se radicalisent. Je pense que un peu partout dans le monde occidental, cette radicalisation de l'opinion et en conséquence ce qu'on pourrait appeler une brutalisation de la vie politique est à l'œuvre. On a une extrême droite de plus en plus forte et des fractions de la population qui ne souhaitent plus négocier avec les autres. Nous avons des citoyens aussi de plus en plus réflexifs, qui sont capables de produire des connaissances à la fois sur leur existence, mais aussi sur leur environnement. Il a été fait référence à ces nouvelles formes d'expertise que l'on appelle dans notre littérature expertise profane, expertise d'usage. Nous avons des groupes d'acteurs qui sont capables de réfléchir, de produire de la contre-expertise, mais aussi de concurrencer les experts labellisés sur un certain nombre de dossiers. Nous avons des sociétés et des citoyens, ça a été dit, de plus en plus défiants à l'égard de toutes les formes d'autorité. Ça ne vaut pas que pour l'autorité politique, mais je pense que les experts aussi aujourd'hui font l'objet d'un procès conflit d'intérêts. Les gens ont compris que les experts étaient sous influence. Donc il est devenu de plus en plus difficile d'imposer un argument d'autorité dans les débats publics et face aux citoyens. Des citoyens de plus en plus réactifs, capables de se mobiliser ici et maintenant contre les projets, contre les décisions dont ils ne veulent pas. Est utilisée très souvent l'idée d'un syndrome NIMBY, not in my backyard, renvoie à cette réalité de riverain qui s'oppose à un projet qui vient changer leur environnement et leur cadre de vie. Mais cette capacité de réaction, cette capacité de mobilisation sur fond de dépolitisation, par ailleurs, les deux mouvements ne sont pas incompatibles et réels et obligent les autorités à prendre prendre des mesures pour faire face à cette montée des conflits. Nous avons enfin des sociétés et des citoyens de plus en plus expressifs. Ils sont capables